invite à tourner dans la deuxième lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 5, 2 Corinthiens, chapitre 5. Bonjour à ceux qui sont sur la toile. Écoutez, vous êtes sur la toile, j'espère que vous êtes assis confortablement. Et on vous invite à venir dimanche prochain pour entendre les témoignages. Puis ce que vous allez entendre, ce n'est pas qu'est-ce que les gens ont fait pendant Libération 21, mais qu'est-ce que Dieu a fait dans leur vie, qu'est-ce que Dieu a fait dans nos vies. Et c'est tellement encourageant, parce que c'est une manifestation, un témoignage de ce que Dieu est à l'œuvre. Et oui, Dieu existe, et on le voit à l'œuvre dans nos vies, puis on veut le partager, on veut s'encourager, parce qu'on est en train de voir Dieu travailler, puis il n'a pas fini son œuvre qui a commencé en nous. Écoutez, dimanche prochain, je vous invite à être là, à vous préparer pour ces témoignages-là. Peut-être vous en avez 3 ou 4, alors communiquez-en un à la fois et allez droit au but. Et je suis certain que ça va encourager. Peut-être que vous allez dire, oh, c'est juste un petit témoignage. Ouvre ta bouche, proclame, et tu vas voir, ça va peut-être encourager des centaines de personnes. Ce n'est pas rien, ça. Dans ce parcours de Libération 21, c'est notre dernière semaine. Ça va quand même assez vite. Moi, je trouve que ça a passé vite, là. C'est incroyable, 21 jours. Mais c'est le fun. Quand ça va vite, c'est on n'a pas le temps de s'ennuyer et on a le goût de recommencer. Qui, par applaudissement, a le goût de recommencer cette expérience-là? Hein? Alléluia! Et moi, à chaque année, j'ai hâte à Libération 21. Puis à chaque année, je ne suis pas surpris. Autant qu'il y a des choses positives qui m'arrivent, mais autant qu'il y a des choses qui brassent. Je ne sais pas si dans votre cas, ça brasse, là, mais par bout, ça brasse, mais c'est bon signe. Les disciples étaient avec Jésus, ça brassait dans la chaloupe, mais Jésus était là, puis lui, il se reposait parce qu'il savait qu'il fallait aller de l'autre bord. Fait que si ça brasse en ce moment, ne t'inquiète pas, Dieu est en contrôle. Dieu n'a pas perdu de contrôle. Peut-être toi, tu as perdu le contrôle. Peut-être que tu as peur qu'il ait perdu le contrôle. Mais il n'a pas perdu le contrôle. Saturne et Uranus ne se sont pas cognés ensemble. Ils ont leur trajectoire. Il a tout l'univers dans ses mains. Et les petits détails, il les a aussi. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Libération 21, eh bien, ça coïncide avec le printemps. Puis on sent que le printemps est en train de s'installer. Ça fond. Écoutez, il y avait tellement de neige chez nous qu'à l'entrée, c'était à peu près quoi? Parce qu'il y a déjà en France 1 mètre de large. Et puis, ça a tellement fondu que là, tous les escaliers en avant là, sont dégagés. C'est vraiment le fun, ça donne de l'espoir. Prochaine étape, on va voir des petites plantes sortir, des petites feuilles, des bourgeons. Ça va être cool, ça s'en vient. Et savez-vous quoi? Est-ce qu'il y en a déjà qui rêvent aux vacances? Est-ce qu'il y en a qui disent hey, « j'ai-tu hâte aux vacances, j'ai-tu hâte au soleil, j'ai-tu hâte de relaxer? » Et moi, quand je suis en vacances, il y a une journée que j'aime pas, c'est la journée que je dois appeler de ma chambre et dire « Pouvez-vous me réveiller demain matin? » Ce qu'on appelle le « wake-up call », l'appel du réveil. Ça, c'est ce que j'aime pas. T'sais. Mais vous savez quoi? On en a besoin, à un moment donné, dans nos vies, des appels de réveil. Parce qu'on a tendance à prendre pour acquis. On a tendance à prendre pour acquis notre demeure, notre épouse, notre époux, nos enfants, tout ce qu'on a reçu et qu'on a perdu de vue que c'est un cadeau de Dieu. Et des fois, il y a des situations qui nous amènent à nous réveiller. Et collectivement, il y a quelque chose qui est arrivé. L'automne dernier, il y a des scientifiques qui se sont dit, « Hey, un instant, il faut faire de quoi avec le réchauffement de la planète, avec la pollution? » Parce que là, il va avoir des conséquences dramatiques. Et qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, ça a été un appel au réveil. Il y a 400 personnalités publiques qui se sont mis ensemble et ils ont formé le pacte. Eh oui, ils ont lancé le pacte vers la transition. Et qu'est-ce qu'ils veulent? C'est justement amener les gens à développer des saines habitudes pour améliorer l'environnement. Moi, je sais que mes enfants capotent parce que je leur dis, non, ça va dans le compost. Non, ça va dans la récupération. Oh, ça! Ouais, mais j'ai dit, as-tu envie que tes petits-enfants, là, ils vivent sur la planète avec un masque à gaz, toi, là? Fait que c'est juste de changer des habitudes puis être conscient qu'il y a des gestes qui font la différence. Et ces gens-là, ces personnalités publiques, se seront donné un rendez-vous en 2020 au Sommet mondial sur le climat pour voir si ces petits changements-là ont eu un impact significatif. Et ça, c'est un appel en disant, on ne peut pas prendre la planète Terre pour acquis. On ne peut pas l'utiliser comme ça, puis qu'il n'y ait pas de conséquences, c'est impossible. Et ça, c'est sur le plan de l'environnement. Mais spirituellement, Libération 21 a aussi un rôle à jouer dans nos vies. On se met 21 jours à part, on se met à part pendant 21 jours pour chercher la face de Dieu, entendre de Dieu, voir, essayer de discerner qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Dans le parcours de notre histoire, là, quelle saison on est en train de vivre présentement? Et ça nous amène parce qu'on a un rêve. Notre rêve, c'est de voir un réveil au Québec, dans le Canada francophone, puis dans toute la francophonie. Voir des gens être réveillés par Dieu, puis dire, « Wow! Qu'est-ce qui se passe en ce moment? J'ai perdu de vue ou je n'avais pas vu que Dieu avait une raison significative dans ma vie et que moi, sans Dieu, il n'y a plus rien de significatif. » Et normalement, quand le Seigneur nous réveille, il nous fait voir puis il fait briller le beau message de l'Évangile. Puis c'est pour ça que Libération 21 est là pour nous amener à prendre conscience d'un élément fondamental. Son message et ce qu'il a fait pour nous. Puis ce qu'il veut faire au travers de nous par ce message-là. Puis Normand, comme Alex l'a mentionné, a bien préparé ce 21 jours-là. Et il a mentionné à un moment donné qu'on a peur de la mission parce qu'on oublie qui on est. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir notre identité de missionnaire. Et il nous rappelait que notre identité, eh bien, on l'exprime visiblement par le baptême. Et il expliquait que c'est comme un tissu qui était trempé dans une teinture qui avait une couleur et il ressortait avec une nouvelle couleur, une nouvelle identité. Et c'est la même chose que nous. Lorsqu'on est né de nouveau, on a été baptisé par le Saint-Esprit pour devenir une nouvelle création. On a une nouvelle identité. Avant, on avait une identité qui était indépendante de Dieu. Maintenant, on a une identité qui est réconciliée avec Dieu. En Jésus-Christ, notre vie trouve son sens. En Jésus-Christ, notre vie trouve notre réalité. Et c'est pour ça que notre société s'en va de plus en plus vers un non-sens. Parce qu'elle est détachée de celui qui donne le sens à la vie. Jésus-Christ, Dieu qui s'est fait homme, qui est venu sur terre. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme nous le rappelait Normand, c'est que notre identité repose sur celui qui nous a aimés. Et Dominique, justement, en a parlé de ça. Être en mission, c'est d'aimer ceux que Dieu aime. Parce qu'on ne peut pas aimer sans être aimé par Dieu. Les deux vont ensemble. Et si on aime, c'est parce que Dieu nous a aimés comme Père. Il a fait de nous ses enfants. Puis le Père, le fait que Dieu est notre Père, ça nous rappelle qu'on fait partie de la famille de Dieu. Et notre rôle d'enfant de Dieu, c'est de faire goûter l'amour de Dieu aux gens avant qu'ils entendent le message. Puis Alex a parlé justement du fait qu'on est appelé à être avec Jésus, à être des serviteurs de Jésus. Et lui, le Fils, a donné l'exemple en tant que serviteur. Il est venu, non pas pour être servi, mais pour servir. Mais puisqu'il est notre maître, on est appelé à entrer dans cette vocation-là de serviteur. Et c'est ce que Dieu veut faire de nous, il veut faire au travers de nous. Et ça nous amène à observer et à être à l'écoute et voir est-ce que notre environnement ressemble au royaume de Dieu et de voir comment Dieu veut agir pour amener la beauté du royaume dans notre environnement. Et c'est pour ça qu'en observant qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans l'histoire de nos vies, ça nous donne des indications. Puis en étant à l'écoute de ce qu'il veut nous dire, eh bien, ça nous connecte avec l'œuvre que Dieu veut opérer, parce que Dieu a préparé d'avance des œuvres pour nous pour qu'on les pratique. Et c'est pour ça que comment on va vivre notre identité en tant que missionnaire? Être en mission avec Dieu, ça nous amène à notre communion avec l'Esprit de Dieu. Et cette communion-là, elle est basée, elle est enracinée sur le message de l'Évangile. Ce n'est pas une question « qu'est-ce que je peux faire de plus? » C'est qui je suis
avec le message de l'Évangile, va manifester quelque chose. C'est sûr. Tu sais, t'es-tu déjà arrivé à, je sais pas, il y a un souper ou il y a une fête, il y a quelque chose qui se passe, puis là, tu dis, hey, ça va être le fun, un tel ou une telle va être là. Hey, là, ça va être le fun. Tu sais, tu demandes, hey, un tel ou une telle va-tu être là? Oui, ah, oh, cool, tu sais. Parce qu'il y en a qui, par leur présence, vont mettre de l'ambiance. Et c'est pas appelé à tout le monde. On n'est pas tous appelés à mettre de l'ambiance, mais chacun de nous, il y a quelque chose de nous qui se dégage. Et c'est cette réalité en Jésus-Christ que Dieu veut faire briller au travers de nous sa personne pour qu'on soit chacun avec sa fragrance, si on veut, une odeur du parfum de Jésus-Christ. Puis c'est pour ça qu'on va voir ensemble que, en tant que disciples, on est une famille, on est des serviteurs, mais on est aussi des missionnaires. Et on va voir comment la centralité de l'Évangile est importante parce que, si notre identité n'est pas basée sur la centralité de l'Évangile, bien, on ne pourra pas communiquer de l'amour. On ne pourra pas manifester l'amour de Dieu. Parce que l'amour qu'on va avoir pour les autres, un amour authentique, un amour véritable, lorsqu'il provient de l'Évangile, a l'impact de l'Évangile. Ce n'est pas pour rien que Paul va dire que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu. Parce que l'Évangile se manifeste par des actions d'amour. Où est-ce que Dieu, au travers de nous, agit avec amour? Alors, on va tourner dans 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 4. Et avant qu'on commence, on va se recueillir devant Dieu pour que nos cœurs soient disposés à recevoir ce que Dieu veut nous donner au travers de sa parole. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ta parole parce qu'elle est la vérité. Et merci au Dieu Tout-Puissant. Puisses-tu faire une œuvre dans nos cœurs, nous dégager de nos craintes, briser les fausses conceptions qu'on a de toi pour te servir librement. Que ce ne soit pas des actions ou des activités qu'on ajoute à notre horaire, mais qu'on soit tout simplement une manifestation vivante de qui tu es et que cet impact-là puisse toucher des vies, réveiller des vies et réaliser que lorsque tu nous appelles à ne pas vivre seulement pour nous-mêmes, il y a des vies qui s'ajoutent. Il y a de la vie. C'est tellement beau, Seigneur. Merci pour ce message de l'Évangile et pour ta parole aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, amen. 2 Corinthiens 5, 4. En effet, nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous ne voulons pas nous dévêtir, mais au contraire nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a préparés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné le gage de l'Esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons que tant que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin de notre patrie, loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Oui, nous sommes pleins de confiance et nous aimerions mieux quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. C'est aussi pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous vivions dans ce corps, soit que nous le quittions. En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Ainsi donc, puisque nous savons ce qu'est la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Quant à Dieu, il nous connaît et j'espère que dans votre conscience, vous nous connaissez aussi. Nous n'allons pas de nouveau nous recommander nous-mêmes auprès de vous, mais nous voulons vous donner l'occasion de vous montrer fiers à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui mettent leur fierté dans les apparences et non dans ce qui relève du cœur. En effet, si nous avons fait preuve de folie, c'est pour Dieu. Si nous sommes raisonnables, c'est pour vous. C'est que l'amour de Christ nous presse, parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Et s'il est mort pour tous, c'est afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine, et si nous avons connu Christ de manière purement humaine, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même, en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes et il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Et ce que ça nous dit dans ce passage-là, c'est que sur terre, on vit dans un corps mortel. Et qu'un jour, on va arriver dans la présence de Dieu et on va passer devant le tribunal de Christ, le podium de Christ, pour se présenter et on va être évalué en fonction de ce qu'on aura fait sur terre. Puis, ce que Paul est en train de nous dire, c'est que le message de l'Évangile est ce qui nous a amenés à vivre une nouvelle identité, à devenir une nouvelle création, une nouvelle créature. Même si on vit dans ce corps mortel-là, Dieu nous appelle à exercer un rôle d'ambassadeur. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente une autre nation sur un territoire étranger. Et le message de cet ambassadeur-là, c'est l'Évangile. Mais ce qui le motive, ce qui le propulse, comme on voit au verset 14, c'est l'amour de Christ. L'amour de Christ nous presse. C'est vraiment l'amour de Christ qui nous presse parce que Dieu aime ce monde qui est éloigné de lui. Dieu aime et Dieu veut rejoindre ce monde. Dieu veut rejoindre les gens de l'Outaouais. Dieu veut rejoindre les Gatinois et Gatinoises. Dieu veut rejoindre la francophonie. Dieu veut même rejoindre, mesdames et messieurs, les Franco-Ontariens. C'est quand même spécial, ça! Qui dit « Amen » à ça? Amen! Amen! On ne vous oublie pas, les Franco-Ontariens. Il n'y a pas juste les Québécois. Vous êtes là, puis Dieu vous aime. C'est spécial, mais il vous aime. C'est une blague. Le verset 21 nous parle de ce qui est au cœur de cette identité-là, de cette mission d'ambassadeur. C'est ce message si motivant, le message de l'Évangile. Le message de ce que ma dette est payée, le message de ce qu'il n'y a plus de condamnation pour moi, le message de ce qu'il n'y a aucune loi qui me condamne maintenant parce que Christ a payé. Celui qui n'a pas connu le péché, Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Un juste n'est pas condamnable. Tu ne peux pas condamner un juste, tu peux juste condamner un coupable. Mais Dieu nous considère comme un non-coupable malgré nos fautes, pas parce qu'il les oublie, pas parce qu'il ferme les yeux, pas parce que le Seigneur ne voit plus rien, pas parce qu'il n'entend plus rien, parce qu'il a payé pour ces fautes-là. Écoutez, moi, à un moment donné, je suis dans un palais de justice, il y a une personne qui s'en vient, ivresse au volant. Coupable! Son avocat, l'avocat de la défense, va voir l'avocat de la couronne, dit « Ah, écoute, il y a bien des causes, hein? Puis là, tu sais, l'autre, il y a une cause de meurtre, là. Fait que là, il faut choisir les causes. Fait que, si tu passes la personne qui a la cause de meurtre, puis tu oublies celle-là, bien là, on va pouvoir délier quelque chose de plus grave. Fait que, qu'est-ce qui est arrivé au bout? La personne qui est accusée d'avoir conduit en faculté affaiblie a été libérée. Pas de casier judiciaire, pas rien. Puis là, on se dit, waouh, c'est grave. Ouais. Mais c'est une grâce qu'elle a eue, cette personne-là. Elle méritait d'être condamnée, mais elle n'a pas reçu de condamnation. Puis nous, on se dit, hey, ouais, ça n'a pas de bon sens. Même, puis notre salut, ça a-tu plus de bon sens? Dieu a sauvé des coupables, des véritables coupables. Il dit, il n'y en a pas de condamnation. Mais là, cette personne-là s'en est sauvée. La différence avec Jésus-Christ, c'est lui, il a payé la dette. Il a subi la condamnation. Ça, c'est la différence. La beauté de l'Évangile, ce n'est pas que c'est plus grave nos fautes, c'est que c'est tellement grave qu'il y a quelqu'un qui a dû payer pour ces fautes-là. Mais on en bénéficie. Puis ce que ça nous amène, ça ne nous donne pas le goût de faire plus de mal. Ça nous rend de plus en plus reconnaissants envers celui qui s'est donné pour nous. C'est ça que ça produit dans nos cœurs. Et ça nous montre la grandeur de son amour. Puis quand ce message s'imprègne en moi, puis que je réalise que je ne suis plus accueilli comme un condamné devant Dieu, eh bien, ça transforme mon cœur. Ça crée en moi un désir de m'approcher de Dieu. S'il y a un message qui doit être imprégné dans nos cœurs, c'est celui de l'Évangile, parce que la source même de ce que nous faisons proviennent des croyances intérieures de nos cœurs. Si ce n'est pas l'Évangile puis l'amour de Dieu qui nous motive, qui nous stimule, qui nous propulse, eh bien, on va être en train de faire des œuvres pour se bâtir une réputation, pour être vu comme des bonnes personnes. Mais notre message, ce n'est pas qu'on s'est amélioré par la puissance de Dieu. Ça, ce n'est pas notre message. Notre message, c'est qu'on est des coupables qui ont été graciés de Dieu, et ça, c'est une grande libération. On a une nouvelle identité qui lui a coûté. Et tout ce qu'on vit, tout ce qu'on communique, vient du fait qu'il a pris notre place, qu'il a pris notre condamnation. La bonne nouvelle, ce n'est pas qu'on s'est amélioré. Et je me souviens, j'avais été voir un spectacle de musique chrétienne. J'étais au Saguenay à cette époque-là. Puis le chanteur avait donné une illustration extraordinaire. Il a dit, imaginez que vous entrez en prison. Puis là, tous les prisonniers là, sont sur le bord des barreaux. Là, tu sais. Puis là, il dit, c'est qui ce gars-là? C'est un nouveau. Puis là, ils ont la face, ces barreaux. Puis là, les gardiens ont dit, il y a quelqu'un qui vient, il veut vous parler. Puis là, ils sont tout en attente. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Puis imaginez, là, tout le monde sont en attente. Là, puis ça, ils le regardent. Là, tu as des tueurs là-dedans, tu as des violeurs, tu as des bandits, tu as des traîtres. Là, vous arrivez, vous leur dites, « Messieurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Devenez meilleurs. Améliorez-vous. Arrêtez d'être mauvais. Soyez gentils. » Qu'est-ce qu'ils vont dire, les prisonniers? « Bouh! » Ça ne leur donnera aucun espoir. Ils savent qu'ils doivent devenir meilleurs. On le sait qu'on doit devenir meilleurs. Mais si tu arrives et tu dis, « Hey! » J'ai les clés. Il y a quelqu'un qui a payé pour vous. Qui veut que je débarre la porte? Tout le monde, la plupart, dit, « Hey! Yes, sir! Oui, monsieur, je veux sortir! » C'est ça le message de libération. Mais il y en a peut-être un qui va dire, « Non, non, il y a une pogne là-dedans. Quand je vais sortir, je vais me faire tuer. Non, non, es-tu malade? » Je veux dire, « Ma vie va être pire si je sors. Et là, j'ai une réputation, je suis un bandit. Voyons donc. Là, je vais sortir. » Quelle réputation je vais avoir? Voyons donc, je ne veux pas de ça. Il y en a qui vont être assez fous pour refuser ce message-là de libération. Mais ça, ça ne nous appartient pas. Et c'est pour ça que si on ne place pas l'Évangile au centre, c'est notre mission qui va devenir le centre et ce ne sera plus l'Évangile. Et là, ça nous amène à travailler fort, par exemple, quand ce n'est pas l'Évangile qui est au centre. La centralité de l'Évangile, ça veut dire Jean 15, 5, je ne peux rien faire sans lui. Hébreux 13, 20, c'est lui qui produit les transformations. Éphésiens 3, 20, c'est son œuvre en moi. Jean 19, 30, il a tout payé. Acte 13, 39, il n'y a plus de loi qui me condamne. Ça, c'est le message de l'Évangile. Et on est appelé des missionnaires, des ambassadeurs, des porteurs de ce message-là, comme individu et comme communauté. Et ça ne veut pas dire qu'on est sans faute, ça veut dire qu'on est porteur d'un message qui est libérateur. On est les ambassadeurs avec une nouvelle identité. Vous savez, sans ce message-là, notre rôle de missionnaire n'a pas de sens. Dimanche prochain, on va parler de nos témoignages, de qu'est-ce que Dieu a fait. Et chaque action de Dieu dans nos vies, c'est une grâce, c'est un cadeau. Et c'est pour ça que ce qui va faire la différence, ce qui va avoir un impact, et Jésus le dit, c'est par l'amour qu'on a les uns pour les autres, qu'on va avoir les uns pour les autres, qui va faire un impact, qui va faire la différence. Et c'est pour ça que Paul, c'est pas juste un message qui est obligé de proclamer, puis ça fait partie de ses devoirs religieux, mais il y a quelque chose au travers de ce message-là qui le presse, c'est tout l'amour de Dieu qui est associé à ce message-là, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour mourir pour nous. Sa motivation pour nous sauver, c'est qu'il nous a tant aimés, c'est qu'il aime tant les Gatinois, qu'il aime tant les Québécois, qu'il aime tant les Franco-Ontariens, qu'il aime tant les francophones, qui aiment tout le monde, pas juste les francophones. Mais Dieu nous a donné une vocation. On parle français, bien, il veut qu'on rejoigne les francophones particulièrement. Parce qu'ils comprennent notre langue. Et puis, être aimé, c'est quoi? C'est être connu, 1 Corinthiens 8. Être aimé, c'est se sentir écouté. Psaume 116, j'aime l'Éternel parce qu'il entend ma voix. Être aimé, c'est se sentir soutenu. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Psaume 18. Et c'est pour ça que je t'appelais être ambassadeur où je vis, où je travaille, où je joue, où je me repose. Et ce que je suis va avoir un impact sur certaines personnes, pas sur toutes les personnes. Et c'est pour ça que le Seigneur m'appelle à être à l'écoute en disant, « Moi, en tant qu'ambassadeur, vers qui tu m'envoies? » Écoutez, le Seigneur... Puis moi, je me suis demandé, tu sais, puis j'entendais parler des groupes connexion, les groupes en mission, puis à un moment donné, on dit, « OK, peux-tu diriger ça, tout ça? » Puis moi, je me disais, « Oh, mais moi, je me situe où là-dedans? » Parce que longtemps dans ma tête, je me disais, « OK, ça, c'est une activité de plus. Puis quand je vais faire cette activité-là, Dieu va être tellement content. » Là, tu peux avoir ta badge de bon chrétien. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, le Seigneur m'ouvre les yeux et dit, « Hey, regarde où est-ce que tu es, regarde qui tu es, puis regarde les portes qui s'ouvrent devant toi. » Puis tout récemment, le Seigneur a ouvert une porte extraordinaire au centre-ville d'Ottawa. Il a ouvert les portes pour que j'aille à un local au centre-ville d'Ottawa pour réunir tous ceux qui travaillent au centre-ville d'Ottawa pour rejoindre les gens les plus influents du pays. Ça va commencer au mois de mai. Je me dis, « Ah, Seigneur, t'es merveilleux. T'es merveilleux. » Est-ce qu'il va ouvrir cette porte-là à tout le monde? Non! Il me connaît, il sait ce qui me stimule, il sait ce qui m'excite, il sait qui je suis, puis il ouvre une porte. Et toi, quelle porte Dieu va ouvrir? Vers qui il t'amène? À qui il veut que tu t'adresses? À qui il veut que tu partages le message? Mais pour ça, ça va demander d'être à l'écoute, d'observer. Écoutez, je travaillais au Saguenay, j'enseignais l'anglais langue seconde dans des petits villages d'irréductibles saguenéens. Je me faisais engueuler par les parents parce que je donnais des punitions, des conséquences à des enfants qui ne faisaient pas leur devoir d'anglais. « Qu'est-ce que ça sert, l'anglais? On n'a pas besoin de ça au Saguenay. » Là. À cause, tu leur donnes des conséquences. Mais pendant 3 ans, j'entendais des choses dans les salles d'enseignants, des affaires, des fois, ils partageaient des choses sur la foi, puis tu sais ça. Il y a une parole qui me venait à mon esprit, une parole qui vient de Patrick Huard, c'est bizarre. Ça disait, ferme ta... On va dire bouche, ouais, c'est mieux. De toute façon, les Français ne comprendront pas. Fait que, ferme-la, Eric! Oh, excusez. Ferme-la, Eric! Là, j'étais là, mes orteils plissaient, ça me rongeait. La troisième et dernière année que j'étais là, une porte s'ouvre, puis je me mets à simplement dire, même, moi, je ne suis pas catholique, moi je suis protestant. Je fais partie d'une église évangélique. Et là, ils ont posé des questions. Puis là, oui, mais Ézéchiel, puis tout ça. Puis là, ils commencent, il y avait toutes des questions en même temps. Je dis, oui, un instant, un à la fois. Puis là, ils n'ont pas arrêté de me poser des questions sur la Bible. Mais ça m'a pris 3 ans à les observer et à l'écoute pour savoir comment leur répondre. Mais à partir de ce moment-là, ils avaient confiance à ce que j'avais à leur dire. Ils étaient à l'écoute, ils voulaient savoir. Parce qu'ils m'ont vu à l'œuvre, ils ont vu l'amour en action avant que je mette à parler. Il y a une confiance qui doit... Parce que savez-vous quoi? Le message de l'Évangile, ce n'est pas juste un message comme ça. Ce n'est pas comme juste une recette de pizza. C'est un message qui touche le cœur, l'intimité du cœur, les profondeurs du cœur. Le message de l'Évangile vient toucher des profondeurs que personne ne connaît dans ton cœur ou dans son cœur. Ça ne peut pas juste arriver de même. Oui, ça peut arriver. Écoutez, moi, dans ma jeune vie chrétienne, j'étais tellement en feu. On s'en allait des gangs dans le centre-ville de Montréal, au coin de Sanguinette et Sainte-Catherine. Il y a du monde bizarre qui se tiennent là. Plus bizarre que les Franco-Ontariens. Mais savez-vous quoi? Puis là, je les arrêtais. Je disais, hey, asseoir, si tu meurs, tu t'en vas en enfer. Là, ils étaient traumatisés. Je rentrais dans un café, puis je disais, hey, écoutez, il faut que je vous parle. Je dérangeais le monde. J'arrivais avec un traité. Il m'a regardé. Il est fou, ce gars-là. Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un au cégep qui me dit, un frère qui venait d'une autre église, il dit, Éric, il dit, sais-tu quoi? Il dit, toi, tu me fais penser à une lampe de poche. Une lampe de poche? Ça me semble que c'est poche, ça. Hein? Il dit, écoute, si tu mets la lampe de poche, tu l'allumes, là, puis tu la mets dans les yeux de la personne, tu vas y brûler les yeux. Mais si tu y éclaires les pieds, tu vas éclairer son sentier, puis il va savoir où s'en aller, puis où marcher. J'étais là, wow! C'est le coup, je dis, pour qui que lui, là, il veut m'empêcher d'être zélé, c'est le diable qui parle, là, il ne veut plus choisir, là. C'est ça, il est jaloux, hein? Alors après ça, c'est, ça ruminait, puis je dis, ouais, dans le fond, tu sais. C'est vrai que quand j'agis comme ça, les gens ne m'écoutent plus, ils me fuient. C'est vrai, ils ne veulent plus me parler. C'est vrai que je ferme plus de portes que j'en ouvre. Fait que dans le fond, je témoigne une fois, mais je viens de brûler mes cartouches, là. Finalement, je me suis rendu compte, je dis, wow, l'idée, c'est pas d'arrêter d'être zélé. Wow, le temps va vite. OK, un petit sprint. Comment on applique ça maintenant? Dans nos rythmes de vie, un rythme de vie qui est de manger. Écoutez, la Genèse, ça commence avec de la bouffe. Tu vas pouvoir manger de tous les fruits du jardin, excepté un. Pâques, c'est de la bouffe. La Sainte Seine, c'est de la bouffe. Dieu dit, dans 1 Corinthiens 10, 31, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, que vous fassiez quelque chose, faites-le pour la gloire de Dieu. » Manger avec les gens, c'est un temps pour apprendre à les connaître, à les écouter. Et savez-vous, la clé, c'est d'écouter les gens, parce que ça, c'est un rythme de vie. Et ce que les Québécois ont le plus de besoin, c'est d'être écouté. Savez-vous sur quoi je me base pour dire ça? C'est vrai que les statistiques vont en diminuant, mais il reste que néanmoins, on est la une des nations où est-ce que le plus de suicides par capita. Savez-vous, c'est quoi le besoin numéro un de quelqu'un qui a manqué à quelqu'un qui s'est enlevé la vie? Se sentir écouté et compris. Il manquait un confident. Le Québec a besoin de gens qui savent écouter. Écouter pour connaître. Pas écouter pour corriger ou remplir les trous, mais écouter pour apprendre à comprendre l'histoire, comprendre le vécu, pour dire, attends une minute, quand ça va être le temps d'ouvrir ma bouche, parce qu'il va y avoir un temps, je vais avoir les mots qu'il faut, les mots qui sonnent, les mots qui résonnent. Un autre rythme de vie, c'est justement, c'est au travers de cette écoute, c'est de comprendre cette histoire. Et donc, en terminant, et j'inviterai les musiciens à s'avancer, qu'est-ce qui est un obstacle à ce que je sois en mission avec Dieu comme missionnaire? C'est une question que je dois me poser. Est-ce que j'ai besoin de soutien? Est-ce qu'il y a des endroits où est-ce que j'ai besoin de me dégager, d'être remplacé? Et je vous invite à lire, je n'ai pas le temps de le lire, mais je vous invite à lire Isaïe 40, les versets 26 à 31. Et à partir du verset 26, ça nous donne le contexte. Mais savez-vous quoi? Quand on marche en tant que missionnaire dans notre identité, que c'est l'Évangile, le message de l'Évangile qui est au centre de notre identité, de notre action, et que c'est l'amour de Christ qui nous presse, et puis il n'y a rien de fatigant. C'est-tu fatigant, par exemple, jouer à des jeux puis avoir du plaisir avec des gens qu'on aime? Ça demande du temps. Mais pour moi, ce n'est pas fatigant. Peut-être pour certains, ça les fatigue, mais pour moi, ça ne l'est pas. Où est-ce que tu peux te ressourcer, te renouveler, et voir que la vie de Dieu, elle est là? Parce que la vie que Dieu veut nous donner, c'est une vie abondante. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ce message de l'Évangile, que ce message de l'Évangile qui a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ, que cet amour qui est derrière ce message, parce que ce n'est pas juste un message de mots, tu as vécu la mort, tu as vécu notre condamnation pour qu'on puisse maintenant proclamer qu'il n'y a plus de condamnation parce que tu l'as payé, cette condamnation. Mais que ça puisse amener des libérations et que ça ne finisse pas le 13 avril, Seigneur, mais que ça continue, jour après jour, ici, à Gatineau, dans l'Outaouais, au Québec, dans le Canada francophone et dans toute la francophonie, pour la gloire de Jésus. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse.